la minute du CIDFF.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la minute du CIDFF sur 48FM du Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Et on va continuer sur notre cycle qui parle de la guerre, toujours avec Claire qui est là. Bonjour Claire.
Bonjour Ludo.
Et alors, la semaine dernière, on a parlé des violences intrafamiliales en temps de guerre. Voilà un sujet qui est pas forcément, dont on ne parle pas forcément. Là aujourd'hui, voilà, ça va être un sujet un peu plus d'actualité. On en parle beaucoup, y a la guerre tout autour de nous et c'est un sujet qui revient souvent sur le tapis, on en parle, mais il n'y a rien qui change malheureusement, c'est les violences sexuelles comme arme de guerre. On l'a vu de tout temps et on le voit encore.
Oui, alors je suis super désolée parce que effectivement la dernière fois qu'on a parlé, c'était déjà un sujet très gai, très joyeux, et que là je continue sur un sujet tout aussi gai et joyeux. Mais je trouve que c'est important de conscientiser, et pour moi les deux sujets allaient quand même ensemble parce que c'était vraiment voilà les violences en temps de guerre de manière générale, et voilà, je le disais la dernière fois, la double peine pour celles et ceux qui ne l'auraient pas écouté. Ben on vous invite forcément à aller réécouter le podcast sur 48FM. Donc on va continuer et je vais recommencer par un trigger warning parce que on parle de violence et celui-là va être peut-être même un peu plus difficile que celui de la dernière fois. Donc auditeurs, auditrices, attention, le sujet peut heurter la sensibilité. Certaines données, certains chiffres peuvent être un petit peu difficiles à entendre. Je dirais même que les oreilles un peu trop jeunes pourraient être écartées éventuellement de la radio. Donc, comme tu l'as dit, c'est loin d'être un phénomène nouveau. Les violences sexistes et sexuelles, et notamment le viol en temps de guerre, c'est vraiment une réalité historique et, entre guillemets, on a l'impression que ça a toujours été là. Dans de nombreux conflits, il a été parfois invisibilisé, parfois toléré, justifié. Il a même été encouragé par les autorités militaires dans certains cas, considéré soit comme le butin du soldat, soit comme la punition du perdant. Je vais commencer par lister quelques cas emblématiques pour celles et ceux qui voudraient aller fouiller derrière. Attention, ça pique un peu. Les viols systématiques pendant le génocide rwandais en 1994. Environ 250 000 à 500 000 femmes violées en quelques mois. La guerre en ex-Yougoslavie, où des camps de viol ont été établis, où des centaines de femmes ont été violées, souvent en public, pour humilier et briser la résistance morale de la population. Ces violences sexuelles ont été reconnues comme stratégies militaires organisées pour nettoyer ethniquement certaines zones. Le Soudan, qui depuis le début de la guerre civile en avril 2023, est théâtre de violences sexuelles massives, notamment des violences conjugales, mais aussi des agressions sexuelles utilisées comme armes de guerre. En mars 2025, l'UNICEF a notamment rapporté 221 cas de viols d'enfants en 3 mois à peine. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les violences sexuelles liées au conflit ont augmenté de 300% en 2023, totalisant 123 000 cas vérifiés, selon le dernier rapport de l'ONU. Enfin, les violences sexuelles commises par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël, documentées par une mission des États-Unis établissant que des violences sexuelles ont eu lieu à différents endroits, incluant viol, torture sexuelle, mutilation génitale, exécution de femmes, parfois après des violences sexuelles, parfois avant. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais la liste pourrait être longue, très très longue.
En fait, la question serait de savoir, est-ce qu'il y a un conflit qui est épargné plus tôt ?
Eh bien, c'est vrai que c'est une vraie question sur est-ce que les conflits sont épargnés. Là où c'est difficile de traiter cette question, c'est qu'on voit bien qu'il y a un temps souvent très long avant qu'on en parle. Tu disais tout à l'heure, on en parle souvent, mais on en parle depuis pas si longtemps que ça déjà, et on en parle souvent des années après les conflits. Donc il est possible qu'on réalise qu'il y a eu des choses dans d'autres conflits qu'on ne sait pas encore.
Oui, après, j'ai l'impression que c'est, le temps se rétrécit quand même. On voit l'Ukraine, on a parlé très tôt avec Bouchka et d'autres. Le Hamas, le 7 octobre, pareil, ça arrivait très tôt. On a l'impression que là, ça se raccourcit en ce moment.
C'est bien là l'intérêt, en fait, et c'est ce que je dis par la suite, de nommer les choses, d'en parler, de les visibiliser, puisque, et on en parlera tout à l'heure, après, il y a la justice derrière qui peut suivre et qui peut évoluer. Donc pendant longtemps, ces crimes-là, effectivement, ils ont été invisibilisés, ils ont été dépolitisés. En fait, on voyait ça un peu comme des dommages collatéraux. Les femmes, en fait, elles étaient purement et simplement, et ça on en a déjà parlé, elles étaient objectifiées, considérées comme soit des simples trophées de récompense, des lots de consolation, des outils de torture, des armes de guerre. Et notre société patriarcale n'est pas étrangère à ce phénomène de domination et d'objectification de la femme. Mais contrairement à une idée reçue qu'on a eue longtemps, ces violences ne sont pas accidentelles, ni seulement le fait de soldats incontrôlables. Si certaines peuvent être le résultat de la banalisation de la violence ou du recours à la violence sexuelle pour se venger ou consoler des frustrations en cas de défaite, la plupart sont en fait instrumentalisées pour des objectifs militaires, politiques et sociaux. Alors du coup, je vais te donner un peu les principaux objectifs en fait, de ces violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. La première, c'est de briser l'ennemi psychologiquement. Quand tu attaques l'intimité, le corps, la famille, tu attaques toute la communauté. Le viol est un message d'humiliation qui est destiné aux femmes, bien sûr, mais aussi aux hommes qui les entourent, les pères, les maris, les frères, etc. C'est aussi pour détruire la cohésion sociale. Dans certaines cultures, le viol entache l'honneur familial et social et provoque l'exclusion, voire le suicide des victimes. Les violences sexuelles étaient délibérément employées pour terroriser les populations civiles, détruire les liens communautaires et forcer même parfois les déplacements massifs. C'est aussi pour contrôler la reproduction, parce qu'avec les grossesses forcées, les avortements imposés, la stérilisation, on a notamment vu le cas au Rwanda ou en Bosnie. Mais aussi, ça sert à effacer l'identité. Les violences sexuelles, c'est parfois utilisé pour effacer une appartenance ethnique ou religieuse, par exemple en forçant des femmes à porter les enfants de l'ennemi. Bref, un phénomène encore une fois multifactoriel et systémique, comme souvent lorsqu'il s'agit des violences sexuelles. Mais c'est que dans les années 90 que la communauté internationale commence à les reconnaître comme crimes de guerre, crimes contre l'humanité et même actes de génocide. Donc tu vois, tu disais tout à l'heure, on en parle. En ce moment, on en parle beaucoup, mais on en parle depuis pas très longtemps. Et on le reconnaît depuis pas très longtemps. C'est le tribunal pénal international pour le Rwanda qui a été le premier à reconnaître le viol comme acte de génocide et celui de l'ex-Yougoslavie qu'il condamne comme crime contre l'humanité. Mais malgré toutes ces avancées, on voit bien qu'il y a encore une impunité qui reste massive. Bah parce qu'évidemment, la peur, la honte, l'isolement, le manque de soutien, bah ça continue d'empêcher les victimes de porter plainte. Et comme les coupables sont souvent les membres des groupes armés, souvent officiels, bah c'est d'autant plus difficile. Mais si les femmes et les enfants, et dans certains cas les minorités de genre et orientation sexuelle, sont les victimes majoritaires de ce type de violence à l'échelle mondiale, les hommes ne sont pas toujours épargnés. Les cibler est même parfois très stratégique. Durant de nombreux conflits, les soldats capturés et les prisonniers de guerre pouvaient être la cible de violences sexuelles. C'est par exemple le cas en Russie et dans les zones occupées d'Ukraine, où les soldats ukrainiens capturés sont victimes de viols, de chocs électriques et de coups sur les parties génitales et sur les fesses, de nudité forcée, etc. Un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur l'Ukraine publié fin 2023 a décompté depuis le début de l'invasion russe 370 cas de violences sexuelles, dont 252 hommes, 106 femmes, 10 filles et 2 garçons. Donc pour une fois, 68% de victimes masculines dans ce cas-là. C'est pas non plus très nouveau, on retrouve quelques témoignages de ce genre datant de la Première Guerre mondiale. Donc il y a une évolution, on en parle de plus en plus, on parle beaucoup notamment des femmes, mais en fait cette stratégie-là, quand elle est poussée plus loin, elle est poussée aussi sur les hommes, qui est une stratégie, puisqu'en fait, les hommes, il y a presque une notion de honte supérieure dans les violences sexuelles.
Oui, je me rappelle de photographies en Irak aussi, par les Américains,
effectivement.
Il y a peu de temps.
C'est ça, donc c'est-à-dire qu'on pousse l'humiliation, parce que déjà, humilier une femme, c'est humilier une femme, mais humilier un homme, ça a presque un degré encore plus fort, puisque c'est eux les héros de la patrie, puisque dans les stéréotypes de genre, ils sont forts, ils sont résistants, etc. Donc on vient briser une deuxième image très forte de la société. Donc maintenant qu'on a donné quelques chiffres et tout et qu'on s'est mis de très bonne humeur, on va parler un peu des conséquences, mais aussi des actions possibles. Alors dans les conséquences, bien sûr, les survivantes et les survivants, du coup, de viols en temps de guerre, ben, peuvent souffrir de traumatismes complexes, de stress post-traumatique, d'anxiété, de dépression, tentatives de suicide, mais aussi de stigmatisation sociale, de rejet par la famille et la communauté, de problèmes de santé, d'IST, de grossesse forcée, de blessures chroniques. En fait, c'est un petit peu les conséquences que l'on peut retrouver dans d'autres situations de violence, mais dans des cas assez extrême. Mais ce qui est important, moi je trouve aussi aujourd'hui avec vous, c'est de parler des réactions. Et dans de nombreux pays, des femmes survivantes se regroupent pour témoigner, pour exiger la justice et pour reconstruire leur vie. Depuis 2000, la résolution 1325 de l'ONU sur femmes, paix et sécurité reconnaît l'impact différencié des conflits sur les femmes et appelle à leur inclusion dans les processus de paix. Car oui, il est capital de prendre en considération cette problématique lorsqu'on entame un réel processus de paix. Mais que peut-on faire alors, nous, pour limiter ces violences? Et plus globalement, le fait de parler, de les nommer, on en parlait tout à l'heure et tu l'as dit, le fait de former les intervenants et intervenantes à les identifier, de sensibiliser les armées, les acteurs et actrices humanitaires, les gouvernements, de soutenir les organisations locales, les journalistes d'investigation, toujours pour la même idée d'information, de relais d'information. Et puis éventuellement, quand on est sur place, ça peut être de mettre en place des structures médicales, psychologiques, juridiques, adaptées et accessibles. Et plus généralement, mais on n'a pas toujours la main, il faudrait renforcer la justice pénale internationale et les juridictions locales et surtout inclure systématiquement les violences sexuelles dans les enquêtes sur crimes de guerre. En conclusion, le viol comme arme de guerre n'est ni une fatalité, ni une tradition culturelle, ni une bavure militaire, mais bien une stratégie de domination profondément genrée et systémique. Le féminisme, la lutte contre les violences et pour les droits humains et la justice internationale ont un rôle crucial à jouer pour que ces violences ne soient plus des outils d'oppression invisibles, mais des crimes mis en mots, reconnus et punis.
Merci beaucoup Claire, on terminera ce cycle sur la guerre avec Lara la semaine prochaine où on parlera des femmes soldates. Merci.
Et elle a plein de recos à vous faire.
Allez, à la semaine prochaine.